Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Depuis l'accord signé le 18 mars entre la Turquie et l'Union européenne, les migrants ont débarqué sur les îles grecques, à peine remis de leur traversée, et on sait combien elle peut être difficile, sont aujourd'hui enfermés dans des hotspots. Il y en a 5, Moria, Samos, Chios, Leros et Kos, des centres dont la mission était avant le 18 mars d'enregistrer, d'identifier les migrants, des centres dont on ne sait plus très bien aujourd'hui quelle est leur nature. Les personnes qui sont enfermés sont mélangés, candidats à l'asile, migrants économiques, tous en attente d'un transfert vers la Turquie où seront désormais organisées leurs demandes. Ferrarissime, plusieurs structures d'aide internationale ont marqué leur désaccord et ne veulent plus collaborer avec cette nouvelle politique européenne. Exemple, le Haut Commissariat des Nations Unies, suivi par MSF, l'IRC, International Rescue Committee ou encore le Conseil norvégien des réfugiés. Alors les hotspots grecs sont-ils en train de se transformer en prison? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean-Marie Cavada, bonsoir.
Bonsoir à vous tous.
Vous êtes député européen, président de Génération Citoyen. Deuxième invité, à ma droite, André Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le responsable adjoint des programmes à MSF Médecins Sans Frontières.
On est là, on n'est pas des criminels. On est des gens qui cherchent la vie, comment vivre. Quand chez nous, ça ne va pas. C'est pour cela qu'on est venu ici. Pour le moment, rien ne va pas chez nous. Mais quand on vient ici, on nous traite comme des criminels, tout ça.
Je ne sais rien du tout si nous nous serions envoyés en Istanbul ou comment. On ne sait pas, on attend notre sort.
Voilà, court extrait d'un reportage de notre correspondante en Grèce, Charlotte Stievenard, des témoignages qui datent de la semaine dernière. Et pour le moment, sachez-le, les deux hommes que nous venons tout juste d'entendre sont toujours enfermés dans le centre de Moria. André Jacques, je voudrais vous poser la première question. Est-ce que les hotspots ont changé, selon vous, selon MSF, de nature aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, ils ont changé de nature puisque les populations qui arrivent en provenance des côtes de Turquie sont enfermées dans ces lieux qui, jusqu'à présent, étaient restés ouverts. Donc, ce sont des lieux grillagés et qui ont la place pour la moitié de la population qu'elles occupent. Qu'il occupe actuellement.
Alors justement, peut-être un chiffre pour donner une idée à nos auditeurs. Ça concerne aujourd'hui combien de personnes, les hotspots fermés, les hotspots version 18 mars?
Alors, tout dépend, hein, le flux d'arrivée. On était, il y a encore trois semaines, à 1900 arrivées journalières en Grèce. Et les hotspots... ont doublé de population, en tout cas contiennent le double de leur capacité actuellement.
Même si de moins en moins de migrants, il est vrai, arrivent aujourd'hui sur les côtes grecques. Alors vous nous disiez les hotspots ont changé de nature, est-ce que vous iriez jusqu'à utiliser le mot prison que j'ai utilisé dans le titre de l'émission ?
À partir du moment où vous avez une structure grillagée avec des barbelés, des portes fermées, des caméras et de la police autour, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc c'est une prison ou un centre de détention administratif.
Jean-Marie Cavada, construire ces centres de migrants, les rendre fermés à la faveur de cet accord qui a été signé entre l'Union européenne, les 28 et la Turquie, est-ce que c'est conforme à l'esprit de l'Union européenne ?
C'est une tragédie dont nous parlons. Et il faut écouter la parole de ceux qui, sur le terrain, depuis des décennies maintenant, tels Médecins Sans Frontières, ont eu à éponger, si je puis dire, humainement, aider, restaurer humainement des gens qui, d'abord, sont chassés pour les uns par la famine et pour ceux-là sont chassés par la guerre, c'est-à-dire la persécution, la courte honte de l'Europe. Je le dis parce que je suis un enfant de la guerre, donc je sais ce que c'est que les massacres. La courte honte de l'Europe qui a jeté des dizaines de millions de réfugiés sur ses routes venant essentiellement de l'Est vers l'Ouest, c'est de ne pas avoir au cœur l'idée que nous devons avoir une politique d'accueil des réfugiés sur l'ensemble de ce continent, et pas que sur le continent d'ailleurs. Je rappelle, pour illustrer mon propos sévère, que l'Europe, ce sont des valeurs. Ça veut dire que nous nous sommes unis pour éviter la destruction de la race européenne par la race européenne. Nous savons donc ce que c'est que la folie des massacres, des guerres, des bombes chimiques et de tout ça. Et je voudrais rappeler que dans la deuxième moitié des années 70, quand il s'est agi de protéger les Cambodgiens et les Vietnamiens qui fuyaient les atrocités du communisme qui était en train de déferler sur le pays, eh bien on a fait des camps à la frontière de Thaïlande et les mêmes Médecins sans frontières et autres acteurs HCR ont recueilli ces pèlerins du malheur, les ont restaurés, habillés, soignés, surtout nourris. Et puis lorsqu'ils ont été à hauteur d'hommes et de femmes, on leur a demandé où ils voulaient aller, on les a répartis à travers le monde. Un bon nombre sont arrivés d'ailleurs en France à cette époque. C'est ceci le devoir de l'Europe, et elle paye l'Europe deux choses, et j'en termine, de n'avoir jamais voulu contrôler ses frontières extérieures pour savoir comment appliquer une politique et qui on devait
faire
laisser
Schengen
entrer.
Sans avoir une
oui,
douane
bien entendu,
commune,
ça ne tient pas debout.
Dès l'instant
qu'on met de la circulation libre à l'intérieur, il faut bien avoir un contrôle extérieur, mais aussi un moyen d'appliquer une politique, parce que là, c'était le désordre. C'est les réfugiés eux-mêmes qui ont dû frayer leur chemin. Et puis, il y a une deuxième chose. L'Europe, de façon très couarde, n'a jamais voulu avouer qu'elle devait avoir une politique migratoire. Et il fallait la faire juger, cette politique, par l'opinion publique. Il fallait avoir une doctrine.
On a esquivé la question. On n'a pas voulu
On n'a pas voulu se mettre à la hauteur des grandes interpellations de l'histoire et nous en payons les débris.
Alors juste une courte question pour bien comprendre. Vous nous disiez tout à l'heure, vous avez prononcé ce mot, honte. Vous avez honte en tant que député européen que cet accord ait été signé
Madame,
avec la Turquie ?
Madame, ce n'est pas en tant que député, c'est en tant que petit Français européen que je suis depuis mon enfance, élevé dans la destruction d'un département français de l'Est à la reconquête du territoire qui s'appelle les Vosges et de tous les drames qui s'en sont suivis, c'est-à-dire élevé dans des fermes, essayant de subvenir à notre propre nourriture, moi-même petit enfant, etc. Je sais ce que c'est qu'une guerre. Et si ces gens ont des réfugiés, moi j'en vois deux familles actuellement. Aucune des deux n'entend rester en France quand la Syrie se sera calmée, ce sont des Syriens. Tous disent ma patrie, ma famille, mes habitudes, c'est la Syrie, je retournerai. Qu'est-ce que nous avions à perdre à nous montrer un minimum organisé, donc généreux dans cette affaire ? On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que nous vivons sous le charme du serpent et du siffleur de serpent, c'est-à-dire les populismes et l'extrême droite européenne dont la France a un sacré morceau, il faut bien le dire.
Ce qui pourrait faire l'objet d'un autre débat,
oui,
effectivement.
Et c'est ça qui fait peur et tout le monde suit le sifflet du serpent.
Alors André Ginck, je voudrais revenir avec vous sur ce que fait aujourd'hui, ce que font aujourd'hui les diverses structures internationales d'aide sur notamment l'île de Lesbos, mais pas seulement dans les îles grecques. Donc vous avez refusé, vous vous êtes retiré des hotspots pour certaines tâches, mais pas toutes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait MSF aujourd'hui dans ces centres fermés ?
Alors, dans ces centres fermés, aujourd'hui, nous n'avons aucune activité. Nous avons proposé de supporter, puisque les autorités grecques nous ont fait la demande de pouvoir les assister en termes de distribution de nourriture. Nous avons demandé à ce que on puisse avoir libre accès à ces centres pour pouvoir justement distribuer de manière correcte la nourriture. Ce qu'on fait, c'est que d'abord, on reçoit les migrants sur les côtes grecques. Ces côtes très dangereuses, finalement, hein, où s'échouent les bateaux.
Au large desquelles ont péri beaucoup de migrants.
Oui, d'ailleurs, d'après certains instituts, le passage de frontières le plus difficile, le plus meurtrier aujourd'hui, se fait au niveau de la mer Égée, au niveau de la Méditerranée. Il faut savoir que les moyens qui sont mis actuellement, les bateaux de surveillance de l'OTAN, les systèmes Frontex, ne font qu'augmenter les difficultés de passage et donc les risques et les incidents et font augmenter finalement le pouvoir des passeurs qui agissent contre ces migrants en leur prenant leur argent et en agissant d'une moyen par des moyens très 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 dangereux vis-à-vis d'eux. Donc ils arrivent sur les côtes, on les recueille, on leur donne à manger, on les réhabille parce que les personnes arrivent trempées. Hein, entre le mois de janvier à mars, il fait très froid.
Vous les soignez ?
On les soigne pour ceux qui ont besoin d'être soignés.
Moralement comme physiquement, j'imagine ?
Oui, on a une cellule psychologique sur chaque position. Et puis, on essaye aussi de comprendre les besoins des structures de santé grecques. qui sont mis à mal avec la crise.
Alors précisément sur les structures de santé grecques, c'est intéressant puisque vous nous disiez, et vous n'êtes pas les seuls, MSF, le Haut Commissariat aux réfugiés, donc l'ONU, hein, les Nations Unies qui refusent de s'associer à cette politique européenne, ont décidé donc de ne plus agir. Et pourtant, le ministre grec de la protection citoyenne a dit qu'il avait besoin des ONG. Alors qu'est-ce que vous répondez aux besoins que formule la Grèce ?
On n'est pas les pourvoyeurs des États. On n'agit pas au service des États, que ce soit en Grèce ou en France ou ailleurs. On agit pour la population. Et on estime que cette population, elle est fragilisée. Moi, j'étais en 2012 en Syrie. Et il y avait dans beaucoup d'espaces syriens, plus aucun hôpital debout. Je vous laisse imaginer le résultat 3 ans, 4 ans plus tard. Donc ces populations ont fortement migré, que ce soit au Liban, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Turquie. 3 millions de réfugiés en Turquie, c'est énorme. Lorsque ces populations déjà arrivent sur le sol grec, sont dans des situations très difficiles. Il faut savoir aujourd'hui que l'Europe, par son accord avec la Turquie, met 35% des arrivants, qui sont des enfants, en prison.
Alors justement, je voulais en venir à ce chiffre. Hein, donc selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 60% des arrivées des 147 000 qui sont arrivées en Grèce par la mer cette année sont des femmes et des enfants. Vous le mentionniez à l'instant, André Jean, qu'on parle de 19 000 enfants actuellement en Grèce, dont 10% qui sont seuls, hein, qui sont non accompagnés. Jean-Marie Cavada, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que là aussi, vous, en tant qu'Européen, député et citoyen, comme vous le disiez, vous avez des choses à dire à ceux qui ont signé cet accord ?
D'abord, c'est un très mauvais accord, pour plusieurs raisons. La première, c'est que moralement, c'est une honte incroyable que de sous-traiter sa part de responsabilité à un État sur lequel je ne peux pas verser la moindre bénédiction de quoi que ce soit, parce que c'est un État qui, tel la Turquie, absolument, qui, tel qu'il est constitué, avec cette sorte de désir de grand sultanat des dirigeants actuels et notamment de M. Erdogan, se servira à un moment ou un autre, et c'est déjà un petit peu le cas avec le marchandage financier, sans compter le traitement de ces réfugiés, se servira de la responsabilité européenne pour la stipendier, pour la désigner, la stigmatiser. Il a d'ailleurs déjà commencé avec la supposée responsabilité en matière de passage de terroristes avec la Hollande, donnant des leçons de morale. Et de cette affaire-là, d'autre part, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui n'est pas, à mes yeux, un modèle recommandable en matière de respect droits humains et des libertés. Il faut quand même voir à qui on a affaire dans cette affaire. Je ne dis pas que ce sont des tortionnaires, mais je dis que les réfugiés seront des otages moraux de l'Europe et des otages négociables de la Turquie. Et ça, c'est la double peine pour les réfugiés.
Sur la Turquie, André Jean, est-ce que vous faites confiance à l'État turc, aux autorités turques, pour examiner les situations des migrants, puisque c'est ce qui va se passer? Les migrants qui sont aujourd'hui Grèce, qui sont arrivés après le 18 mars, vont être retransférés en Turquie, qu'ils soient réfugiés, migrants économiques ou demandeurs d'asile.
Alors pour l'instant, il est un peu trop tôt pour le dire. Seulement, il faut voir un peu la situation en Turquie sur ce nombre de réfugiés sur le sol turc. Seulement 10% sont dans des structures.
Donc dans les camps dont on parle.
Ou avec accès à l'eau, avec accès à des toilettes.
Il y a un stade au Pirée en Grèce, mais il y en a plein qui ne sont pas dans ces structures.
Je parle de la Turquie. Hein.
Ah pardon.
Vous me dites la Turquie. Donc en Turquie, c'est 90% des réfugiés syriens en Turquie n'ont pas de structure d'accueil en place.
Ils sont dans la nature et d'ailleurs le peuple turc, la population souvent aide. Il faut rendre hommage à la population, je ne confonds pas avec son gouvernement évidemment.
Et comme en Grèce, aussi, la population aide beaucoup et on va un peu suivre évidemment ce qui se passe en Turquie. On a commencé à le suivre évidemment, mais on va aussi évidemment avoir et c'est ce qu'on fait ces jours-ci, un œil affiné sur les arrivées en Grèce, sur la façon dont sont logés les gens, où ils sont déplacés.
Et sur la manière dont les procédures vont être respectées ou pas par la Turquie ?
Aussi, bien sûr. Puisque on a aujourd'hui, c'est difficile pour nous de savoir si ces mesures finalement pour stopper les migrants vers la Grèce fonctionnent ou pas. Il y a du mauvais temps. Il y a aussi une dangerosité, les courants, toute la mer par elle-même est dangereuse. Hein. Je rappelle à 75%. La mortalité au niveau mondial et au passage de frontières se situe au niveau de la Grèce actuellement.
Oui, car effectivement, hein, l'objectif de cet accord, c'était d'être dissuasif, de dire aux migrants ne venez plus. Jean-Marie Cavada, sur cette question, est-ce qu'on ne peut pas craindre, et c'est ce qui semble se dessiner, que d'autres routes soient empruntées, mais que ça ne réduise en rien le phénomène migratoire ?
Madame, lorsque vous sauvez votre peau, que vous voulez chercher un avenir vivant d'abord. Hein. Un bon réfugié, c'est un réfugié vivant, parce que tellement ont été massacrés sur place qu'il faut voir de quel point de vue on se place. Ben, toutes les voies possibles, naturellement, vous les prendrez. C'est ce qui se passe, et s'est passé, et se passera, naturellement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je voudrais reprendre la phrase de mon ami personnel Michel Rocard qui disait à propos de la France que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais il avait ajouté « elle doit y participer ». Nous devons dire ça à l'Europe, c'est exactement sa responsabilité. Comment voulez-vous bâtir un ensemble de pays assez différents, mais qui cependant ont connu positivement, de par les drames que nous avons vécu au XXe siècle, les mêmes valeurs, une même aspiration aux valeurs, que ça c'est bon pour nous, mais que les étrangers, ils peuvent mourir. Ça, c'est insensé de voir ça.
Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Est-ce qu'il fallait ne pas négocier avec Turquie,
madame,
négocier différemment avec la Turquie ?
D'abord, la Turquie, dans cette affaire, encore une fois, c'est un garage de sous-traitance de nos irresponsabilités, de notre manque de responsabilité. Ça n'avait rien à faire là-bas, cette affaire-là. Ça devait être traité par l'Union, par les pays membres de l'Union, par l'ONU elle-même en ce qui concerne la répartition d'un certain nombre de réfugiés, qui certains, vous avez vu, on cite le chiffre de 25 000 qui sont allés au Canada, bravo le Canada, honte à l'Europe. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas contre l'Europe, parce que on va dire l'Europe, et tout le monde dit ça. Non, l'Europe, c'est le secrétariat général des gouvernements qui composent l'Europe, et ce sont eux les patrons qui, ce sont eux qui décident.
C'est bien la faute de chaque pays.
C'est bien la faute des 28. C'est bien la faute des Polonais qui n'en veulent plus, de la Hongrie qui n'en veut pas, de la France qui en veut peu pour ne pas dire le moins possible, et de l'Allemagne qui vient maintenant, après avoir eu le cœur sur la main et être très, très ouverte, de se retourner, parce que tout ça est entre les mains maintenant du populisme. Et c'est une sorte, regardez bien le croquis, c'est une sorte de double, je dirais, otage que nous sommes otages de partis extrémistes que fabriquent cette question, parce que nous n'avons pas le courage de dire que c'est l'honneur des Européens d'accueillir au moins temporairement les persécutés de la guerre, et nous sommes otages par ailleurs de la Turquie qui dans cette affaire en fera un commerce et pas que d'argent.
Un dernier mot pour vous, André Jinck. On a beaucoup entendu cette formule, avec cet accord c'est la fin du droit d'asile. Est-ce que c'est une formule que vous partagez ?
Impossible pour moi de me prononcer en la matière. Par contre, on reste, nous, à Médecins Sans Frontières, on va rester très vigilants sur le sort de ces populations. On va continuer à les suivre et à voir, évidemment, avoir trouvé pour eux les meilleures conditions, en tout cas à l'arrivée. On ne participera pas au système coercitif qui consiste à les amener en prison. Ça a été très dur pour nos équipes de devoir accueillir des gens sur les côtes grecques et de les voir amener en centre administratif.
Vous le disiez d'ailleurs, hein, ça a été une décision difficile que de vous retirer des hotspots.
En tout cas, de se retirer, on n'y était pas vraiment, mais on assistait en termes de soins, on est prêt à le reprendre, mais on aimerait en tout cas que les populations aient accès à des soins de base, et en particulier les enfants et les femmes.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci donc à nos deux invités, Jean-Marie Cavada, qui est député européen, président de Génération Citoyen, André Jung, que vous venez d'entendre, responsable adjoint des programmes à MSF, Médecins Sans Frontières. Merci également à Florence Pons, à Hélène Avril. Rendez-vous demain pour un nouveau débat sur le sort de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.